dans ton Jourdain. Alors, je ne veux pas faire d'erreur doctrinale, hein, je vous invite pas à aller déjà en Israël pour aller vous rebaptiser dans le Jourdain. Ça a dû déjà t'arriver, hein, des gens qui disent « Ah, moi, je veux être baptisé dans le Jourdain. » Oui ou non ?
Non.
Oh, d'accord, c'est garanti.
Ils peuvent repartir avec s'ils veulent.
D'accord, non, mais c'est l'autre Jourdain. C'est l'autre Jourdain, non, mais voilà. Mais j'ai entendu, c'est pas l'idée. Mais on va voir, et à travers l'histoire de Naaman, et puis après, au niveau aussi de la Bible, comment est-ce qu'on peut entrevoir ? J'aimerais ce matin, oui, m'adresser, bien sûr, à ceux qui viennent de se baptiser, ou qui vont se baptiser, m'adresser peut-être à des gens qui ne sont pas encore engagés avec Jésus-Christ, m'adresser aussi à tout l'auditoire, à chaque chrétien, et lui dire, plonge dans ton Jourdain. Ce n'est pas pour ceux qui vont se faire baptiser uniquement. Et je vais expliquer. On va d'abord lire dans le deuxième livre des rois, cette histoire de Naaman, que vous connaissez bien, pour les lecteurs habitués de la Bible. De Rois, chapitre 5. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son seigneur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Or, des troupes de Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint le rapporter à son Seigneur en ces termes. « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Alors le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 pièces d'or, et 10 vêtements de rechange. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Mais suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse ainsi à moi, afin que je débarrasse un homme de sa lèpre, reconnaissez donc et voyez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Qu'il vienne donc vers moi. » Et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et s'en alla en disant, « Voici ce que je me disais. Il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il fera passer sa main sur l'endroit malade et débassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, l'Amana, et le parpare ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne me pourrais-je pas y laver et devenir pur ? » Il s'en retourna donc et partit en fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? À plus forte raison, dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et sois pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se tint devant lui en disant, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel devant qui je me tiens est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque c'est non, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si Emmanuel, je taquine, hein, plonge cette fois lorsqu'il baptise. C'est ainsi, hein. C'est là dans la Bible. Mais que peut représenter ces sept fois? Alors on sait que le chiffre 7, c'est le chiffre parfait, le chiffre de Dieu. Pourquoi 7? Quel était l'apprentissage? Et qu'est-ce que l'on peut apprendre à travers cela? Ben on va, sans plus tarder, lire un autre passage. C'est dans Hébreux, au chapitre 6 et au verset 2. Au verset 1, on va lire, dès le verset 1. Excusez-moi, j'avais dit le verset 2, avec le contexte. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole de Christ, tendons vers la perfection sans poser de nouveau le fondement, repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. Il y a des fondamentaux, il y a des fondements. Il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas revenir, des choses importantes. Et là, il est parlé de plusieurs domaines, et dont la doctrine des baptêmes, et au pluriel. Ah. Est-ce que là, Pasteur Salon va parler et parle de doctrine, est-ce qu'on doit se faire baptiser plusieurs fois? Pourquoi est-ce qu'il est parlé de doctrine des baptêmes? Alors, il y a, bien évidemment, ce baptême d'eau qui marque un engagement public d'un homme, d'une femme à vivre pour Jésus-Christ. Le témoignage public de son identification à Jésus à travers sa mort et sa résurrection. Sa confession de foi, comme quoi il vit à partir d'aujourd'hui, publiquement, comme un témoin de Jésus-Christ et jusqu'à la fin, sa vie qui est passée par une authentique repentance. C'est le baptême d'eau. Mais au sens figuré, il y a dans la Bible aussi différentes immersions. Et cela nous concerne tous. Et on va voir dans quelques instants ces différentes possibilités d'immersion. En quoi est-ce qu'on peut être baptisé? Alors, si on revient d'abord à Naaman, Et cet homme qui ne connaissait pas du tout l'Éternel et qui se posait là une question face à sa situation de santé, il était important, il était très considéré. Le roi de Syrie venait de remporter une guerre, une grande victoire face à Israël. Et là, ce chef de l'armée, Naaman, bien considéré, s'est retrouvé malade. Et cela nous montre la réalité de la vie, quoi qu'on ait fait pour essayer de bien la gérer, bien la construire, bien la réussir, malgré la réussite même qui peut paraître évidente aux yeux des autres, dans notre société, malgré peut-être même une bonne gestion de vie de famille, ce qui n'est pas si simple et si évident, une réussite peut-être professionnelle, malgré la considération que les autres peuvent avoir envers nous, on est nul ni à l'abri d'un événement qui vient fragiliser toute cette situation qu'on a essayé de construire d'une manière stable. Ça peut être la maladie, ça peut être parfois dans le couple la non-compréhension et des frustrations et une attitude qui provoque tant de dispersion et de disputes et de l'incompréhension et qui amène parfois au divorce. Ça peut venir d'une situation économique qui change totalement la donne, malgré toutes les prévisions d'une entreprise qui ne demande qu'à se développer. Voilà qu'un jour, on reçoit une lettre comme quoi il y a un licenciement économique. Tant de situations d'un coup peuvent arriver qu'on ne peut gérer, qu'on ne peut maîtriser. Et là, cet homme, en pleine réussite sociale, dans une belle considération, connaît l'échec, une simple maladie, face à une simple maladie qui l'a atteint. et contre laquelle il ne peut rien faire. Mais voici que Dieu, dans chacune de nos vies, a prévu de nous appeler. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème, c'est que l'homme n'y prend point garde. Alors, ce Naaman, on repère qu'il est dit que c'est par lui que l'Éternel avait donné la victoire. Ben, finalement, pour parler à son peuple. Naaman ne connaissait pas Dieu, mais dans sa providence. Et lorsqu'on regarde, lorsqu'on découvre Dieu, on peut regarder notre vie à travers le miroir et avec le recul, et se dire, mais finalement, déjà Dieu m'a parfois protégé. Combien de personnes peuvent se dire, mais dans telle situation, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y avait une direction. Il avait déjà tout prévu, malgré que moi, je m'étais mis en rébellion face à lui. C'est la grâce divine. Et il prépare le temps, il cherche à nous appeler. Et il nous a bien souvent déjà appelés. Je ne sais pas si pour vous c'est ainsi, mais le jour où j'ai plié le genou, où j'ai demandé pardon pour mes péchés, où j'ai réalisé que Jésus était mort sur la croix pour pardon de mes péchés, je me suis mis à pleurer ce jour-là. Mais au fond de mon cœur, pourtant j'avais 15 ans, mais il y a eu une parole de Dieu qui m'avait touché, interpellé. Il m'a dit, tant de fois je t'ai déjà appelé. Tant de fois je t'ai déjà parlé. Alors c'est étonnant, aujourd'hui, j'ai parfois du mal à partager, mais ce jour-là, j'étais à la croisée des chemins, et dans mon cœur, j'ai eu cette voix qui s'impose à moi, aujourd'hui, il faut que tu choisisses. Comme si c'était la dernière fois. Après, avec le recul, j'ai compris, un an après, j'étais un garçon bien gentil, avec des parents, un couple pastoral, avec une éducation contre laquelle j'ai rien à redire. Bon, j'en ai redit, hein, comme tous les enfants. Hein. Allez, mais aujourd'hui, honnêtement, une manière, si je veux être objectif, je dois vraiment remercier mes parents, tous ceux qui m'ont apporté. Tout le monde n'a pas eu cette grâce que j'ai pu avoir. Cependant, j'avais deux groupes d'amis. Et un an après que je me sois tourné vers Jésus-Christ, j'ai revu un de mes amis. J'ai appris qu'il passe en procès parce que les deux groupes d'amis différents sont retrouvés. Et finalement, ils ont cambriolé un CFA et volé des ordinateurs comme ça. Ils se sont fait attraper. Je me suis dit, influençable comme je l'étais, jamais j'aurais été à l'initiative de choses comme celle-là, mais j'ai influençable comme j'étais, je me suis retrouvé au milieu. Et je n'aurais pas su dire non. Et là, je me suis rendu compte combien Dieu, pourquoi il m'avait appelé. Il m'a dit, aujourd'hui, c'est un choix, c'est la dernière fois. Il faut que tu te positionnes. Par la suite, j'ai compris. Dieu parle. Et Dieu avait déjà ainsi préparé pour Naaman. Mais ce n'est pas simplement cela. Il y a, à travers l'épreuve, cette situation qu'il traverse. Et là, ça l'a amené à se poser des questions et à se rendre compte de sa fragilité. Tout l'orgueil de l'homme, surtout lorsqu'on connaît le pouvoir, une certaine réussite, et on peut se sentir un peu au-dessus des autres, a eu besoin d'être fissuré, brisé. Et je pense, vous comme moi, combien est-ce qu'on a appris aussi à travers les épreuves. Et c'est biblique. Attention, ce n'est pas là dans la doctrine traditionnelle. On dit qu'il faut se charger de sa croix. Et au plus qu'on souffre, au plus on ressemble à Jésus. Non, non, non. Il a souffert à notre place. Et les souffrances qu'il a portées, on n'a pas besoin de les porter et d'en souffrir. C'est bien pour ça. Ces personnes veulent se faire baptiser pour dire « Mais c'est Jésus qui a souffert à ma place. C'est lui qui est mort. » Moi, j'ai juste besoin de m'identifier à lui et pas de refaire ce que lui a fait. Mais la Bible nous dit « Armez-vous de la pensée de souffrir. » Et Christ, bien qu'il soit fils, il a pris l'obéissance à travers les choses aussi qu'il a souffertes. Et dit « Regardez comme un sujet de joie parfaite et diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confronté. » Ce qu'elles nous apprennent, persévérance, la patience, afin que vous soyez parfaits. Ça, c'est le projet de Dieu. Et vous savez, de progresser, demande des efforts. Si on monte dans une tour de 18 étages, l'ascenseur en panne, chaque palier, on est là, allez, ça demande des efforts pour y arriver. La persévérance, la patience. Parce qu'il y a là un objectif à atteindre. Et là, dans cette situation, Dieu aussi l'a interpellé, lui a parlé. Il y a, par la grâce de Dieu, dans cette situation d'épreuve, cette jeune fille, cette témoin qui a su ouvrir la bouche quand il fallait, de manière adéquate, inspirée, tout humblement, sans prendre de haut son maître, mais dire « Ah, je connais ainsi quelqu'un en Israël. » Alors, eux qui venaient de remporter la victoire sur Israël, comment maintenant Israël aurait pu, pouvait sauver l'homme qui a triomphé? Un paradigme tout nouveau, une réflexion nouvelle. Mais c'est là où Dieu voulait l'emmener. Et des fois, lui permettre de perdre ses repères afin d'en acquérir des nouveaux et de pouvoir vivre selon de nouveaux préceptes. Parce qu'on n'est pas appelé à suivre le courant de ce monde. On n'est pas appelé à nous identifier ainsi dans ce monde. Et Jésus, en priant pour ses disciples, leur dit, je ne prie pas de les ôter de ce monde et de les préserver du mal. Et vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Puis, il y a son roi, cette autorité, ce roi de Syrie, qui lui dit, mais vas-y, écoute, je te fais une lettre. Et si c'est vrai, si Israël, le roi d'Israël, a cette possibilité, ben je l'ordonne, puisque on a gagné ainsi cette bataille, je l'ordonne de te guérir. Et puis, la voix du roi d'Israël, qui lui s'est retrouvé avec cette lettre, d'ordonnance de guérir le chef de l'armée qui avait remporté la victoire. Et lui s'est retrouvé bien décontenancé. Il a dit, mais oui, il cherche une occasion de dispute. Mais heureusement, il y a là le messager de l'homme de Dieu qui porte cette parole, laisse-le venir à moi et il saura. On peut facilement mettre en parallèle avec ces paroles de Jésus. Alors, on a parlé des enfants, on a prié pour les enfants. Et ce bel appel, ce bel enseignement de Jésus-Christ concernant les enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les empêchez pas. Au contraire, favorisez. Faites-leur de la place. C'est bien ça le projet. Hein. Pour les petits-enfants, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Jamais Jésus, et jamais dans la Bible, il est dit de baptiser les enfants. Même dans la religion traditionnelle, cela est venu au cours des siècles. Lorsque certaines doctrines bibliques ont été perdues et ont été changées, transformées. Mais cet engagement à travers le baptême est un engagement pris à l'âge adulte. Tous les baptêmes dans la Bible sont des personnes qui ont eux-mêmes pris leurs propres décisions et sont eux-mêmes engagés. J'ai un enfant. Moi, j'en avais un qui aimait se cacher derrière la porte de la cuisine avant manger et manger des bonbons. Il était avec son paquet de bonbons. Et là, on pouvait l'appeler. Vous savez, quand il est caché, il y en a un comme ça. Pas rien. Il y en a un, même on joue à cache-cache, il nous a. Si on joue cache-cache avec lui, même 2 heures après, il ne sort pas. Il ne dit pas un mot. Vous pouvez l'appeler comme ça. Demande, on est là, il est sorti, il n'est pas là. Dans la maison, on cherche partout. Il reste strict, même pas un rire. Les autres, ils rigolent. Vous savez, les enfants, au bout d'un moment, on sait, ils bougent, ils sont là. J'en ai un, et le dernier, qui est là. Et faut pas jouer. On a appris une fois, pas deux, il ne fallait pas jouer à cache-cache avec lui. Mais là, un petit enfant, on lui dit, on lui demande de s'engager. De ne pas manger des bonbons avant le repas, ben, ils vont dire oui, et c'est sincère. Je ferai plus. Et trois semaines après, il y a un paquet de bonbons à midi moins le quart. Son engagement. Est-ce que vous pouvez mettre en jugement réunion de famille? Tu t'es engagé comme cela? Oui, il faut lui apprendre ce qu'est l'engagement. Mais même la société nous montre qu'un enfant, parce que des fois, on apprend à travers les faits divers qu'il y a des enfants d'un âge vraiment, moins de 10 ans même, qui savent conduire des voitures. Hein. Oui, non. Mais on ne leur permet pas, même s'ils savent, et je ne sais pas, mais peut-être mieux que d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a le code de la route et qu'il faut avoir conscience de quoi on s'engage. Même pour l'école, on essaye de favoriser au maximum un tronc commun pour que la voie professionnelle soit choisie à un âge où on a conscience. Parce que si, je ne sais pas si c'est au CE1, on était engagé par la réponse qu'on donne à l'instituteur ou l'institutrice quand il demande « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Dites-moi, qu'est-ce qu'on aurait dans notre société comme métier? Des policiers? Des pompiers? Des astronautes? En pagaille, en veux-tu, en voilà? Mais des comptables? Il y en aurait? Et on en a besoin? Eh oui! Heureusement qu'on n'est pas engagé, hein, et qu'on nous laisse mûrir. Et ainsi, il y a cet appel aussi de Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Laisse-le venir à moi. » Donc oui, l'engagement du baptême, c'est un engagement à un âge où on peut prendre cette décision personnelle. Mais répondre à cet appel de Jésus. Et là, voilà Naaman qui se retrouve devant l'homme de Dieu. Mais si il a eu besoin de se plonger 7 fois. Comme je dis, ce n'est pas une doctrine qu'on doit appliquer et de baptiser 7 fois les gens. Non. Mais cela nous montre que Dieu a un projet pour nous et un projet parfait. Et son projet pour lui. Et pour cela, Naaman devait accepter de mourir à lui-même. Et là, 7 fois, parce que ce n'est pas simplement une fois. Mais là, c'est tous les jours le renoncement. Et c'est d'étape en étape, de projet en projet, une transformation de gloire en gloire, afin de nous rendre à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le projet de Dieu. Et vous comme moi, on est loin d'y être arrivé. Donc ce matin, j'ai besoin aussi de me plonger dans mon Jourdain. De passer une nouvelle étape. De renoncer à moi-même et de pouvoir dire dans un domaine peut-être particulier, là, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On peut le lancer comme un slogan, le vouloir, mais le mettre en pratique. Et là, la mise en pratique pour Naaman l'a amené à changer son paradigme, à changer ses réflexions, ses idées reçues, ce qu'il pense savoir. Parce que même si on est réunis dans une même salle pour louer le même Dieu au nom du même Jésus-Christ, si on ferait une dissertation, je ne vous demanderai pas cela, mais qui est Dieu pour vous? Est-ce qu'on aurait des éléments différents? Oui ou non? Je crois tous des éléments différents. Dieu, c'est comme un diamant à 1000 facettes et finalement toute une vie d'humain ne pourra jamais connaître Dieu tel qu'il est, mais vivre des révélations. Alors certains vont à travers leur expérience, connaître combien Dieu peut relever. Alors je rends grâce à Dieu, j'ai eu une crise de colique, j'ai eu un caillot dans la vésicule biliaire qui, il y a une semaine et demie, m'a bloqué le foie. J'ai eu un passage aux urgences entre la nuit de samedi à dimanche. Je suis resté dimanche matin. Heureusement encore, j'avais mes 2 stagiaires. Et que c'était un stagiaire qui devait prêcher pour la dernière fois. C'était le culte d'au revoir. Mais j'ai été là bloqué aux urgences. Et c'était, Dieu savait, c'était juste avant, parce qu'aujourd'hui, j'aurais été dans un autre problème, un autre stress à Salon de Provence. Mais j'ai été très fatigué. Mardi, j'ai demandé à l'église, avec d'autres, on a fait un temps vraiment d'intercession, uniquement d'intercession, et de prière, et de prier pour moi. Je disais à Emmanuel, j'étais encore mardi assis sur une chaise. Je ne me voyais pas passer toute la réunion debout. J'étais facilement fatigué. Et Dieu m'a vraiment relevé. C'est pas bien grave. J'étais quand même un petit peu inquiet. Comme je dis, Dieu parle aussi à travers des fois l'épreuve et même la maladie. Je veux dire, moi, je suis un mauvais client pour les médecins. Et ce n'est pas simplement de la foi, je suis honnête. Mais mes médicaments, ce n'est pas parce que je dis non, je n'ai pas besoin de cela. Vous savez, non, je suis négligent. Et le médecin, quand il me reprend, il me dit, mais vous avez bien pris votre traitement. Souvent, je suis là, il dit, monsieur le pasteur. Et je ne suis pas bien fier, ce n'est pas un exemple. Mais là, je vous assure que depuis, j'ai mangé pratiquement que des fruits et des légumes. La douleur a réveillé une conscience et toute nouvelle que je ne savais pas. Et mes examens, je les ai faits en temps et en heure. Et j'ai priorisé, j'étais là entre les visites, j'ai dit à même le rendez-vous chez le médecin, j'ai dit ok, ah non, à 14h je ne peux pas, mais à 17h, je n'ai pas tardé. Et je ne savais pas d'où ça venait, et le fait que mes analyses du foie n'étaient pas bonnes, j'ai eu une petite inquiétude avec cette fatigue. Jusqu'à ce que, tout juste jeudi, on a compris ce qui s'était passé, j'étais bien rassuré, et puis Dieu m'a vraiment redonné des forces. Mais c'est pas grand chose, ça, c'est des choses, c'est beaucoup. J'en rencontre aujourd'hui tant qu'ils me disent bah, je suis passé par là, on m'a même opéré, j'en suis pas encore là. Mais par la grâce de Dieu, on sait. Et on a été témoin, vous avez été témoin, combien un mot de Dieu peut guérir n'importe quelle maladie. À ce Dieu à qui tout est possible, il n'y a pas de petites, de grandes maladies, de choses bénignes qui peuvent arriver. Et de choses incurables qui provoquent tant de difficultés aux hommes, même pour lui. Si tout est possible, il n'y a pas de petits ou de grandes interventions. Il n'y a pas de difficultés pour Dieu. Ça, moi, j'ai besoin que ma foi apprenne encore à reconnaître que n'importe quelle maladie, pour Dieu, c'est un mot de sa part. Dis seulement un mot. Il sera guéri. Et c'est là dans notre réflexion, nos pensées. Et là, Naaman, lorsqu'il a appris que l'homme de Dieu lui dit, va te plonger cette fois dans le Jourdain, il dit, quand même, je suis le chef de l'armée du roi de Syrie. On a gagné, on a remporté la victoire. Il aurait dû me considérer un peu à la hauteur de ma réputation et avoir un petit peu d'égard envers moi. Comment il peut m'humilier devant tous mes serviteurs et dans tout ce peuple d'Israël, sachant que, comme il le dit, en Syrie, il y avait des fleuves qui étaient de beaux fleuves, bien clairs, de l'eau limpide. Et j'ai eu la grâce d'aller une fois en Israël, j'ai vu le Jourdain, je vous assure, j'ai même pas voulu mettre un orteil de mon pied dedans, Pourtant, moi, je me baigne de partout comme ça. J'aurais pu, mais c'était boueux. Franchement, c'est bien mieux cette eau-là. Je n'ai pas encore vu comme ça, mais forcément. Et là, on dit, attends, je suis lépreux. Ma peau a des problèmes. Et on veut que je m'infecte totalement dans cette eau boueuse, remplie de bactéries qui est là. J'ai quand même. Et puis, je m'imaginais quand même qu'il viendrait vers moi. Dans une version, il dit qu'il agiterait la main vers moi. Ça peut parler aussi de nos conceptions comme Dieu pourrait ou comment est-ce qu'on voudrait que Dieu agisse. Ça c'est un problème. Naaman a eu besoin de plonger dans l'eau et d'abandonner ses propres conceptions. Quand même, il aurait pu, alors dans la version Colombe, dit passer la main. Là où je suis malade, cela nous parle de méthode. Il n'y a pas de doctrine comme ça. Dieu peut conduire. Et même un prédicateur à dire, mais posez la main là où vous avez mal. Et priez. Mais ce n'est pas une doctrine biblique qu'on doit dire, pose ta main comme ça. Si tu pries, si tu passes ta main, tu n'es pas guéri. Et cette conception et ces conceptions, elles ne doivent pas nous bloquer dans l'intervention de Dieu. Et là, Naaman a dû ainsi mourir pleinement à lui-même. Alors pour terminer avec cette transformation qui a amené Naaman quand même à dire, mais je n'offrirai plus d'holocauste, plus de sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Je voudrais revenir sur ce verset qui est parlé de la doctrine des baptêmes. Alors, ce matin, quel baptême est-ce que tu as besoin d'être baptisé? Alors, ce baptême d'eau, il est évident, parce que le mot baptiser signifie plonger, immerger. Là, c'est au sens premier, à l'identification à la mort de Jésus-Christ. Et c'est cette réalité qu'on veut vivre pleinement avec Jésus, qui a pleinement autorité sur notre vie. Et c'est important pour cela. C'est pour ça que c'est important que ce soit une immersion. Et que dans la Bible, il n'y a que des baptêmes par immersion. Le mot baptiser veut dire immerger. C'est pour ça qu'on prend la Sainte-Seine et on réitère cet engagement à travers le baptême. En disant, oui, je reconnais mon frère, ma sœur, que Jésus est mort pour la croix, pour mes péchés. Et quelque part, si ça serait aujourd'hui que je me ferais baptiser, je referais mon témoignage et je me ferais baptiser. Mon engagement est toujours valide, je te l'assure. Et on se le dit, c'est pour ça que c'est public, aussi la Sainte-Seine. C'est pour cela, comme votre pasteur l'a rappelé, il n'y a pas de sens à réitérer un engagement qu'on n'a pas déjà pris. Vous voyez, c'est d'une logique. Et on prend la Sainte-Seine lorsqu'on se fait baptiser. Alors, ceux qui vont se faire baptiser ont pris la Sainte-Seine, parce que c'est aujourd'hui, on est tous témoins. Et ce n'est pas un péché de l'avoir pris une demi-heure avant, vous comprenez bien. Ce n'est pas cela, mais c'est, on ne peut pas réitérer, rappeler quelque chose que l'on n'a pas pris, qu'on n'a pas fait. Mais, dans la Bible, il est parlé, Jésus a dit aussi, Jean le Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers, lui vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. Cette promesse est pour vous, dit Pierre. Pour vos enfants. Pour tous ceux qui sont appelés. Recevez, dit Jésus, pleinement le Saint-Esprit. Mais il dit, du Saint-Esprit et du feu. Alors, oui, le jour de la Pentecôte, c'était comme des langues de feu qui sont descendues. Et ça nous parle du Saint-Esprit. Mais le feu nous parle aussi de ce creuset, vous savez, dans lequel on met l'or pour qu'il soit pleinement pur. Et on l'amène à une telle température que toutes les impuretés sont brûlées. Alors, ça peut aussi parler du feu de l'épreuve, des difficultés, parce qu'on n'est pas dans la théologie de la prospérité, où un chrétien, tout lui sourit, il est toujours en bonne santé, les poches sont toujours remplies, et qui amène une culpabilisation, une culpabilité s'il arrive quoi que ce soit dans la vie. Qu'est-ce que tu as fait, Seigneur? Quel est ton péché caché? Alors oui, Dieu peut parler, on le voit à travers la maladie aussi, interpeller. Mais alors dans ce cas, on sait de quoi il s'agit. Mais moi, je suis d'avis qu'on n'a pas besoin de se poser la question si ce n'est pas clair dans notre cœur, si le lien, Dieu, le Saint-Esprit fait le lien si nécessaire. Sinon, nous, on n'a pas besoin de faire le lien au niveau des gens. Mais, comme j'ai parlé tout à l'heure, oui, l'épreuve peut parler, et elle est nécessaire, parce que Dieu a prévu à chaque épreuve le moyen d'en sortir, et c'est des expériences. Et l'épreuve nous amène soit à nous rebeller contre Dieu, soit à nous attendre, à nous abandonner pleinement à lui, et à savoir qu'il est fidèle et qu'il tient notre vie entre ses mains. Alors, il y a aussi notre baptême et c'est Paul qui dit aux Corinthiens, car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, nous avons tous été baptisés. Soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, il est parlé du baptême dans le corps. Et là, qui réunit des gens d'origines différentes, mais qui font partie du même corps. Et là, c'est le baptême dans le corps qui est l'Église. Et l'Église, c'est une famille. Des amis, on les choisit. Des membres de famille, généralement, on ne les a pas choisis. Nos parents, on ne les a pas choisis. Nos frères, nos sœurs, on ne les a pas choisis. Moi, je n'aurais pas choisi d'avoir deux sœurs et d'être le dernier petit garçon. J'aurais tant voulu pas être obligé de jouer à la poupée pour m'amuser avec quelqu'un. Être seul à jouer aux petites voitures. Là, j'aurais fait d'autres choix. Mais je n'ai pas choisi. Et nos frères et sœurs dans l'Église, on ne les a pas choisis. Ce n'est pas un club, ce n'est pas parce qu'on aime bien une certaine activité. Ce n'est pas interdit d'avoir des activités en commun, ensemble. Vous avez de bons et de très bons guitaristes comme cela, mais ce n'est pas un club de guitaristes, l'église d'Arles. Oui ou non ? Ce n'est pas ceux qui procurent cette rencontre et cette réunion. C'est notre foi en Jésus-Christ. Après, c'est bien que les musiciens s'entraînent entre eux. Si certains ont une activité, ce n'est pas interdit, les chrétiens ils fassent une randonnée ensemble. Comme ça, mais ce n'est pas le but. On ne choisit pas par affinité, on ne choisit pas son église par affinité. Mais c'est là où Dieu nous a placés et pour le servir. Amen. Et donc, c'est dans l'église aussi que nous sommes baptisés. C'est un engagement aussi devant frères et sœurs, devant l'église. Et c'est pour ça que si la conversion peut se passer et doit se passer dans le privé, vous savez, comme le mariage... Des fois, j'ai peur de choquer des jeunes filles comme ça. Je dis, mais le jour du mariage, devant le maire, on répète ce qui a été dit. Finalement, on fait du théâtre parce que le oui, généralement, on sait que l'un et l'autre va le dire. Oui ou non ? Généralement, ce n'est pas le jour du mariage où on s'est dit oui. Vous me comprenez ? Et il y a eu un oui qui a précédé le jour du mariage. Et ce oui, il a été en privé. Est-ce que tu veux devenir ma femme ? Est-ce que tu veux devenir mon mari ? Et là, c'est ce oui. Moi, personnellement, c'est ce oui où j'ai demandé mariage à mon épouse qui a réjoui mon cœur encore plus que le jour du mariage devant le maire. C'est le jour où je dis, est-ce qu'elle va dire oui ? Qu'elle m'a dit oui dans le privé. Mais il est valide, ce oui, parce qu'il s'est concrétisé de manière publique. Et parce qu'on a su le dire devant témoins et devant la société. Et si ce qui importe, c'est votre conversion, ce oui que vous avez dit à Jésus-Christ lorsque vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel, de tout votre cœur, de manière privée, cœur à cœur avec lui, aujourd'hui, le fait de le dire publiquement, c'est un acte d'amour, un acte d'engagement. Mais c'est un acte de baptême aussi dans l'Église, d'appartenance à cette Église local. Alors, on pourrait parler aussi, même si dans la Bible, il n'est pas nommé clairement, mais Paul disait aux Éphésiens, il dit, cette église, afin de la sanctifier par ta parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Et donc, il y a cette sanctification. Sachant que l'eau, Pierre 3:21, on pourrait l'afficher, hein, en parlant de Noé, il est dit, c'était une image du baptême, il dit, mais cette eau n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est une figure du baptême. Lesquels ne se débarrassent pas de la souillure de la chair, qui a demandé adresse à Dieu, d'une bonne conscience, la résurrection de Jésus-Christ. Et là, il est dit à la fin de la sanctifier par ta parole. On pourrait parler du baptême dans la parole, parce qu'on ne peut avancer dans notre vie avec Dieu sans être baptisé dans la parole, sans plonger nos regards à la loi parfaite de l'Écriture, qui est utile de redresser pour enseigner. Ce rapport avec la Bible, là, ça concerne, ça nous concerne tous. Est-ce que je suis toujours plongé à la loi parfaite, mon regard ? Est-ce que c'est elle qui est la boussole de ma vie ? C'est elle qui est le fondement de ma foi. Il y a ainsi ces différentes notions ainsi de baptême. Et Naaman a été baptisé, finalement. Naaman s'est plongé cette fois. Et ce matin, je veux simplement vous dire, vous qui avez peut-être déjà accepté Jésus comme votre sauveur personnel, qui avez déjà accepté publiquement de vous engager avec lui à travers le baptême d'eau. Aujourd'hui, plonge-toi dans ton Jourdain. Peut-être une nouvelle fois. Quelle est l'étape de ta vie vis-à-vis du baptême dans le Saint-Esprit ? Le renouvellement du baptême dans le Saint-Esprit. Parce que celui-là, c'est cette fois, c'est tous les jours de la semaine. Hein. Où en est ainsi la conduite de ta vie, l'autorité de la pensée de Christ sur tes propres pensées, de l'esprit de Dieu sous ton propre esprit, ta propre volonté, qui prend autorité. Cette jeune fille servante a su parler quand il fallait, une seule parole adéquate, a su voir sa bouche fermée quand il fallait qu'elle ne parle pas, conduite, dirigée par l'action du Saint-Esprit. Quelle est ta relation vis-à-vis de l'Église? Si quelqu'un est simplement spectateur, si quelqu'un vient et est bien en accord, mais est-ce que tu réalises que tu ne peux pas servir Dieu sans servir l'Église? C'est la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu qui le dit. Sans servir les frères et les sœurs. On ne peut avoir une vie chrétienne séparée de nos frères et de nos sœurs. C'est notre famille, on n'a pas à la choisir. On ne l'a pas choisi. Dieu nous a placés. On a à l'entendre, à obéir, à le servir. Et il y a d'abondantes joies et de grâces qu'il nous donne. Mais ça, il y a des efforts. Ce n'est pas toujours évident. Cette semaine, quelqu'un est venu me voir pour parler d'un petit différend qu'il a avec un frère. Il dit, j'ai attendu 2 semaines parce que je n'ai pas osé. Parce que il y a quelques semaines, en prêchant, tu as dit que c'est... En étant pasteur, le plus dur, ce n'est pas de prêcher, mais c'est gérer les caractères humains. Alors, on me dit, je ne voulais pas te rajouter ça. Du coup, je dis, non, il faut venir quand même. On est là. Mais ce n'est pas évident. On n'est plus juif ni grec. On est enfant de Dieu. Mais on garde quand même nos spécificités. Et on est condamné à servir Dieu ensemble, avec nos différents caractères, différentes origines, nos histoires différentes. Ça demande des efforts, parce qu'il faut construire ce bâtiment, et chaque pierre doit s'accorder avec celle d'à côté, celle de dessous. Et donc, elle a besoin des fois d'être retaillée. Même si vous prenez une pierre déjà taillée pour rebâtir un mur, il faut forcément la retailler pour qu'elle s'accorde avec les autres pierres. Et il faut accepter ainsi qu'on construise cela. Est-ce que c'est peut-être à travers l'épreuve que tu traverses? Je dis, mais Dieu veut m'apprendre aussi quelque chose. Il y a un enseignement à sortir. Est-ce qu'on pourrait prier? Et peut-être quelques-uns au milieu de nous qui se posent ces questions dans leur cœur, qui sont peut-être interpellés par l'Esprit de Dieu, comme une voix de Dieu, que Dieu leur parle. Si quelqu'un n'a pas accepté Jésus comme son sauveur personnel, fais-le maintenant. Repens-toi de tes péchés. C'est aujourd'hui le jour du salut. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Accepte Jésus, cœur à cœur avec lui. Et viendra le jour où tu t'engageras publiquement. Tu traverses peut-être une épreuve. Est-ce que tu considères que Dieu veut t'en sortir, bien évidemment, mais veut aussi te former, veut t'enseigner? Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que c'est elle qui te nourrit? C'est bien les messages, les prédications, c'est essentiel. Mais est-ce que tu te nourris directement à la source? Dieu t'appelle à le servir, rempli, baptisé par le Saint-Esprit pour être son témoin. C'est indispensable. Toutes tes capacités, tes compétences doivent être soumises à la direction de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu veux peut-être plonger dans ton Jourdain? Et lâcher prise. Tes conceptions. Je m'imaginais que Dieu ferait ainsi, m'amènerait. Est-ce que tu es prêt à noyer tes propres conceptions pour que celle de Dieu s'impose à toi? On va prier maintenant. Je vais peut-être inviter simplement, s'il y a des personnes qui veulent dire à Dieu, j'ai besoin de passer une étape, de plonger dans mon Jourdain. Levez simplement votre main à votre place, je prierai pour vous. Je ne vous demanderai pas de vous lever à votre place, mais simplement levez votre main. S'il y a des personnes qui veulent prendre un engagement avec Dieu, dans un domaine ou dans un autre, c'est entre vous et Dieu, mais là, simplement, vous dites, oui, j'accepte de me plonger et de laisser Dieu agir dans tel ou tel domaine. Notre Dieu, tu vois ces cœurs qui sont devant toi, ces engagements qui sont pris, ces cœurs à cœur avec toi. Donne-leur, Seigneur, de mettre en pratique ce qu'ils ont reçu, cet engagement qu'ils prennent devant toi. Je te remercie pour eux. Peut-être ceux qui ne te connaissent pas, afin que ton Saint-Esprit leur montre tout ton amour. Je te remercie pour ces personnes qui vont s'engager à travers les eaux du baptême, baptisées dans son Saint-Esprit, faisant des servants, des serviteurs pour ta gloire. Merci Seigneur de relever, d'agir, d'intervenir dans chacune de ces vies. Amen.